L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. L'extase du papillon, l'émission consacrée au haïku, ce genre poétique japonais ou genre tout court. C'est peut-être pas de la poésie, le haïku, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus, ou c'est peut-être autre chose. Vous ferez votre opinion vous-même peut-être à l'issue de ces 9 émissions consacrées à 3 grands maîtres du haïku japonais. Et j'ai nommé Issa, Kobayashi, Busson, Yosabusson et Masaoka Shiki, 3 grands maîtres du haïku qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de ce petit poème qui était autrefois japonais et qui maintenant est reconnu, pratiqué, lu dans le monde entier. 3 petits vers de rien du tout. Et pourtant, comme dirait Kobayashi Issa, que je vous propose de mieux connaître à partir d'aujourd'hui. Vous allez vivre 3 semaines en compagnie de ce merveilleux poète. Kobayashi Yasaro, qui prendra plus tard comme nom de plume Issa, naît le 5e jour du 5e mois de l'année 1763 à Kashiwabara. C'est un petit village au nord de la province montagneuse de Shinano, l'actuel Nagano. C'est à 60 lieues au nord-ouest de Edo, l'ancien nom de Tokyo, la capitale du Japon. Le père de Issa, Kobayashi Yagobei, fermier propriétaire de quelques terres qui produisent du riz, du millet, du sarrasin et divers légumes, est aussi loueur de chevaux de bât, mais il est surtout un homme instruit ayant un penchant certain pour la littérature. Quand Issa naît, son père a 30 ans, sa mère, Kuni, une femme cultivée, est la fille d'un riche fermier, chef d'un village voisin. Avec eux vit la grand-mère paternelle, Kana. Les environs de Kashiwabara, ma foi, sont d'une grande beauté. Au nord et à l'ouest, il y a des montagnes. À l'est, le lac Nojiri, entouré de collines boisées. Mon village natal, dit Issa, est dans le Shinano, caché dans un repli du mont Kurohime. La neige fond seulement en été et dès le début de l'automne, le givre apparaît. Kashiwabara étant situé sur l'arête nord des Alpes japonaises, l'hiver y est très rude. Quand les nuages soufflés de la mer du Japon vers le sud se transforment en neige en heurtant les hautes montagnes, les maisons sont littéralement ensevelies sous la neige et ressemblent à une grotte. Les habitants doivent faire du feu dans la maison toute la journée, non seulement pour se chauffer, mais aussi pour s'éclairer. Les mains et les pieds sont noirs de suie, rapporte Issa. Les barbes semblent plus pointues, les regards deviennent plus aigus, les gens finissent par ressembler aux démons légendaires du purgatoire. Le village de Kashiwabara, bien que de taille réduite, de par sa situation géographique sur une route très fréquentée entre le poste frontière avec la province d'Echigo au nord et une passe d'accès difficile au sud, eh bien, ma foi, ce petit village a une certaine importance. On y trouve un relais de poste et une grosse auberge où s'arrêtent aussi bien les seigneurs de province, les daimyo, en voyage avec leur escorte vers Edo, la capitale militaire, pour servir le shogun, que toutes sortes de voyageurs aux métiers divers, et notamment les marchands qui transportent du poisson et du sel de la mer du Japon jusqu'à la capitale. Yataro, c'est-à-dire donc Issa, avant qu'il prenne ce nom d'Issa, Yataro a 2 ans quand sa jeune mère meurt. « Feu, ma mère, chaque fois que j'aperçois la mer, chaque fois que j'aperçois la mer, » écrira-t-il bien plus tard. C'est désormais la grand-mère de Issa qui l'élève. Il devient assez rapidement un enfant à part, taciturne et renfermé, doué d'une grande sensibilité au monde. Cela me rendait triste, dit-il, d'entendre les autres enfants se moquer de moi en chantant « On reconnaît l'enfant sans mère partout, il se tient devant la porte en se mordant les doigts ». C'est pour cela que je fréquentais rarement les autres et passais de longues journées accroupies près des fagots de bois et des bottes de foin entassées dans le champ derrière la maison, submergé de pitié pour moi-même. Viens jouer avec moi, moineau orphelin. Viens jouer avec moi, moineau orphelin. À 6 ans, Yataro rentre à l'école dirigée par Nakamura Rokusaimon, qui est patron de l'auberge et propriétaire d'un commerce florissant de vin. Il est aussi calligraphe, mathématicien et poète. Il initie ses élèves aux textes bouddhistes et reconnaît très vite les prédispositions littéraires de Yataro, dont il va rester jusqu'à la fin de sa vie l'ami et le soutien. Très jeune, Yataro acquiert dans le village la réputation d'un enfant intelligent, doué pour l'étude. L'école est installée dans les bâtiments de l'auberge et les enfants sont donc témoins de la vie qui l'anime. Yataro est très impressionné le jour où s'arrête à l'auberge Maeda, seigneur de Kaga, et son cortège, une procession longue de 500 mètres, des bannières de tête aux bagages de queue. Yataro a 7 ans quand son père se remarie avec Satsu, une fille de paysan, travailleuse et décidée. Bien vite, elle prend en grippe Yataro, qui, selon elle, passe trop de temps à étudier et à flâner dans les champs et pas assez à travailler à la ferme. Les brimades commencent et elle parvient à décider le père de retirer Yataro de l'école malgré les protestations de Nakamura, le professeur. Issa se rappelle quand le printemps arrivait, je devais travailler au champ toute la journée, ramasser les légumes, faire les foins, mener les chevaux et toute la soirée assis près de la fenêtre dans le clair de lune, tresser avec de la paille des sandales et des sabots pour les chevaux, sans qu'il me restât le moindre moment pour étudier. Sa belle-mère lui interdit même d'utiliser la lampe pour étudier lors des longues soirées d'hiver. Néanmoins, chaque fois qu'il peut s'échapper, Issa ou Yataro, comme vous voudrez, se rend en cachette chez Nakamura. Yataro a 11 ans quand naît un demi-frère, Senroku. Maintenant, jalouse de la position de Yataro comme premier héritier, la belle-mère Satsu de Sévère devient carrément malveillante. Elle oblige Yataro à garder le bébé. À partir de ce jour, dit Issa, je dois m'occuper de mon petit frère. Au printemps, quand les journées s'allongent, je dois essorer mes vêtements trempés par ses baves et ses fesses. En automne, quand les journées raccourcissent, ma peau trempée par son urine n'a pas le temps de sécher. À chaque fois que Senroku pleure, mes parents soupçonnent d'une certaine manière que je suis responsable. Alors je reçois des coups de bâton 100 fois par jour, 8000 fois par mois. Pas un seul jour de l'année sans que mes yeux ne soient gonflés de larmes. La seule personne qui me reste pour me protéger est ma vieille grand-mère. Comme une âme affamée en enfer qui a trouvé un saint miséricordieux, je repose entièrement sur son aide pour échapper à ma situation pénible. Le seul refuge de Yataro, c'est la nature. Les grands arbres à la lisière du village, les pins et les châtaigniers du temple Suwaji. Il passe une nuit entière à pleurer sur les marches du temple Myosen-ji. Quand il a 14 ans, sa grand-mère, la seule personne à lui prodiguer un peu d'affection, meurt. Se souvenant d'elle, 33 années plus tard, il écrira « Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. Ma grand-mère, apitoyée, me sortait en me portant sur son dos ou dans ses bras et s'inclinant devant quelques jeunes mères passant par là, lui demandait de me donner le sein. Grâce à son affection, j'ai poussé comme un jeune bambou. Ma nouvelle mère est arrivée quand j'avais 7 ans. Si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, si ma tête blanche peut encore regarder la lune de mon ciel natal, c'est parce que ma grand-mère m'a protégé du courroux épineux de ma belle-mère et de ses colères plus coupantes que la bise de la montagne. » Son père, Yagobei, finit par comprendre le traitement infligé à Yataro et pense alors qu'il serait peut-être tout de même préférable pour son fils qu'il quitte la maison familiale un certain temps et qu'il aille à Edo, la capitale. Envoyer les jeunes garçons travailler à la capitale n'avait alors rien d'insolite pour des familles de Kashiwabara. D'ailleurs, un certain nombre de fermiers de la province de Shinano allaient travailler à Edo pendant l'hiver. Ces travailleurs migrants étaient surnommés les étourneaux gris, ce qui équivaut en français à pecno. Une aube de printemps dans ma 14e année. Déchiré, je quittais la maison. Mon père m'accompagna jusqu'au village de Mouré et me dit « Prends bien garde de ne pas manger de nourriture avariée. Ne fais rien qui puisse laisser les gens penser du mal de toi et reviens bientôt me montrer ton tendre visage. » À ces mots, quelques larmes coulèrent sur mes joues, mais ne voulant pas que les voyageurs qui m'accompagnaient rient de moi si je montrais quelques hésitations et désireux de ne pas faire preuve de faiblesse devant mon père, je me forçais à me séparer de lui courageusement. Yataro ne reviendra à Kashiwabara que 15 années plus tard. Son père lui a juste donné une lettre d'introduction auprès d'un parent de sa mère, un lettré qui loge des étudiants en échange de travaux de copie. Ses premiers temps à Edo sont, ma foi, difficiles. Issa y apprend ce que signifient la faim et le froid. Dans son journal de bord, il note « Comme un oiseau pitoyable sans nid, je fus immédiatement confronté à la difficulté de trouver un endroit pour dormir. Une nuit, je m'abritais de la rosée sous l'avant-toit d'une maison. Une autre nuit, je trouvais refuge contre la gelée à l'ombre d'une autre maison. Un jour, j'errais dans un bois inconnu en poussant de grands cris, mais il n'y avait personne à part un vent mélancolique dans les pins pour me répondre. Je fis un lit de feuillage et m'y couchai. Un autre jour, alors que je me trouvais à la nuit tombante sur une plage inconnue, où il n'y avait aucune trace de vie humaine, je me demande comment j'ai pu survivre, assailli toute la nuit par le vent maritime. Je passais des jours et des mois dans des situations misérables comme celle-ci, jusqu'à ce que, par hasard, j'en vins à connaître l'art du haïku bucolique et humoristique. » Yataro finit par trouver un travail de palefrenier dans le château d'un seigneur. Sous des moustiquaires neuves dorment les chevaux d'Edo. Sous des moustiquaires neuves dorment les chevaux d'Edo. Edo est alors une ville animée et tumultueuse où règnent l'ostentation et la corruption. Une vaste communauté d'artisans et de commerçants sert les besoins des seigneurs féodaux, les daimyo, qui y entretiennent tous un château. Le grand shogun Yoshimune, qui avait réussi à endiguer la dégradation de la société, n'est plus là, et ses deux successeurs, Ieshige et Ieyaru, réduisent son travail à néant. Les ministres corrompus déprécient la fonction gouvernementale, la société d'Edo, blasée et désillusionnée, sombre dans l'extravagance et la décadence. Yataro va tout de même rester 37 ans à Edo. Au départ, on le raille pour la lenteur de son parler montagnard et son allure de paysan. Pourtant, sous les fleurs des cerisiers, personne n'est vraiment un étranger. Sous les fleurs des cerisiers, personne n'est vraiment un étranger. Yataro mène une vie aux conditions précaires, mais qui lui laisse le loisir de se consacrer à la littérature. Il compose de nombreux haïkus, qu'on appelle encore alors haïkai. Je vous rappelle que c'est le poète Shiki qui fera adopter ce nom de haïku, sous lequel on connaît aujourd'hui notre petit poème de trois vers. Bref, Issa compose de nombreux haïkus et s'associe à des poètes, notamment à l'école de haïku Katsushika, fondée par un disciple du grand poète Basho, mort il y a bientôt 100 ans. Au cours de l'année 1790, le maître en titre de l'école Katsushika meurt et Yataro, maintenant âgé de 28 ans, est désigné pour lui succéder. Mais au bout d'un an, critiqué pour les libertés qu'il prend envers les conventions littéraires de l'école, il démissionne. et décide de retourner à Kashiwabara, son village natal, pour la première fois depuis son départ 15 années auparavant. Il quitte Edo à pied à la fin du troisième mois de l'année 1791 et arrive à Kashiwabara un mois et demi plus tard. J'arrive dans mon village natal à l'heure où dans les maisons on allume les lampes. Vient enfin le moment tant attendu où je retrouve mon père et ma belle-mère. Tous deux sont en bonne santé. Ma joie, mon bonheur et ma gratitude sont à ce moment précis comme ceux d'une tortue aveugle qui au milieu de l'océan tombe sur un morceau de bois flottant ou ceux d'un homme qui découvre une étoile scintillante dans un ciel complètement noir. Je suis si heureux que j'en perds la parole pour un moment. L'arbre au portail, tel qu'auparavant, le soir prenant le frais. L'arbre au portail, tel qu'auparavant, le soir prenant le frais. Issa fait part à son père Yagobei de son intention de partir en pèlerinage dans les provinces de l'Ouest et les îles du Sud. Son père, pieux bouddhiste de l'école de la Terre Pure, lui demande de s'arrêter au temple principal de l'école à Kyoto et de dire une prière de sa part. Ce genre de pèlerinage, qui donne lieu et matière à la rédaction d'un journal, renfermant des essais, des poèmes et des dessins, est alors une pratique littéraire, sinon courante, du moins très estimée au Japon. Ainsi, au début du printemps 1792, après être retourné à Edo, Yataro prend congé de ses amis et disciples. Il se fait raser la tête, endosse une robe de moine et prend le titre et le nom de Haikaichi Nyudo Isabo, moine laïque Issa du temple du Haikai. Et le nom de Issa, eh bien, que signifie-t-il? Tout simplement une bulle dans une tasse de thé. Cela souligne le sentiment aigu de l'impermanence des choses pour celui qui vient de le choisir. Premier jour de printemps, Yataro se mue en moine Issa. Premier jour de printemps, Yataro se mue en moine Issa. Avec son bâton de pèlerin, ses sandales en paille et son kaza, un large chapeau en bambou pour s'abriter de la pluie et du soleil, Issa part en pèlerinage vers l'ouest en suivant le Tokaido, la fameuse route de la mer de l'Est qui relie Edo, l'actuel Tokyo, je vous le rappelle, à Kyoto en longeant l'océan. Tout d'abord, Issa va se recueillir au sanctuaire d'Ise, dans l'enceinte duquel se trouve le mont Kamiji, le chemin des dieux. Spontanément, ma tête s'incline, le chemin des dieux. Spontanément, ma tête s'incline, le chemin des dieux. Je suis comme un fou sans foyer, nous révèle Issa, à tel moment errant à l'ouest, à tel autre errant à l'est. Le matin, je prends mon petit déjeuner dans la province de Kazusa et le soir, trouve un logement dans la province de Musashi. Je suis comme une vague blanche sans côte pour accoster ou comme de l'écume de mer qui disparaît à peine formée. C'est justement pour cette raison que je m'appelle moine Issa. Au printemps 1795, Issa se rend à Matsuyama sur l'île de Shikoku pour y admirer les cerisiers en fleurs, comme c'est la tradition, et il projette de faire étape dans le village de Namba pour rendre visite à un certain Sarai, le moine supérieur du temple local, sur la recommandation d'un ami. Au village de Namba, dans le canton de Kazahaya, je m'enquiers de Sarai, et on me dit qu'il est décédé il y a 15 ans déjà. Sur ce, je demande au nouveau moine supérieur si je peux passer la nuit au temple, mais il refuse. Je me sens complètement désarmé, d'autant plus que j'ai fait tout ce chemin uniquement pour rencontrer Sarai. Il ne me reste plus qu'à avancer à tâtons dans le noir, à travers champs et jardins. Dans l'obscurité, mes pieds s'enfoncent dans l'eau, égarés en chemin. Dans l'obscurité, mes pieds s'enfoncent dans l'eau, égarés en chemin. Issa se rend ensuite à Kyoto, puis dans la région d'Osaka. Je m'en sens un peu coupable. Faisant la sieste, j'entends la chanson de repiquage du riz. Je m'en sens un peu coupable. Faisant la sieste, j'entends la chanson de repiquage du riz. Issa séjourne ensuite quelque temps au temple Sennenji. Le moine Goba et supérieur du temple devient un ami proche et un critique littéraire éclairé. À Shikoku, Issa se lie aussi d'amitié avec un riche marchand de Matsuyama, Shodo Nijoan, grand amateur de poésie, chez qui il s'installe un long moment. Repassant par Osaka, Issa rencontre le poète Oemaru, de 40 ans son aîné, un poète non orthodoxe comme lui. Il passe le nouvel an 1798 dans un temple près de Nara. Moi aussi, ce matin, moine au cœur pur, les pruniers en fleurs. Moi aussi, ce matin, moine au cœur pur, les pruniers en fleurs. Après 6 années de voyage, Issa est finalement de retour à Edo en 1798. Il a maintenant 35 ans. La publication de son journal de voyage est très remarquée dans le milieu littéraire. Outre des haïkus, des poèmes en chinois et des dessins, on y trouve de petits textes tels que celui-ci. En pèlerinage au temple Tokaiji de Fuse, des poules se mettent à me suivre avec insistance. Habitoyé, j'achète une mesure de riz dans une maison devant la porte du temple et l'éparpille parmi les violettes et les pissenlits. Bientôt, ici et là, les poules commencent à se chamailler entre elles. Pendant ce temps, des branches des arbres arrivent des pigeons et des moineaux qui mangent le riz discrètement. Quand les poules reviennent, pigeons et moineaux regagnent les branches, regrettant que la séance de coups de pied n'ait pas duré plus longtemps. Les samouraïs, les paysans, les artisans, les marchands et tous les autres, tous se comportent de la même manière. Même distribuer du riz est un crime. Les poules se chamaillent. Même distribuer du riz est un crime. Les poules se chamaillent. On reconnaît là l'humour de Issa, qui sera l'une de ses marques de fabrique en tant que haïkiste. Peu de temps après son retour à Edo, Issa se présente un jour au bureau de Tseibi Natsume, un riche courtier en riz, poète en renom, connu pour son sens littéraire pénétrant. Il demande à voir Seibi, mais les employés, affichant leur mépris pour un individu à l'apparence aussi peu soignée, après l'avoir fait attendre longtemps, finissent par lui dire que Seibi n'a pas le temps de le recevoir. Avant de repartir, Issa renverse par terre le paquet de farine de sarrasin de Chinano qu'il a apporté en cadeau, et du bout du pied, il y trace ce haïku. À Chinano, on a la lune, le Bouddha, et notre farine de sarrasin. À Shinano, on a la lune, le Bouddha et notre farine de sarrasin. Il faut savoir qu'il y a à Shinano une grande et célèbre statue du Bouddha au temple Denkoji et que la beauté du paysage de lune sur le mont Obatsute est très réputée. La chose, l'incident, est rapporté à Seibi qui fait immédiatement rappeler Issa et lui présente ses excuses. Issa et Seibi se lient rapidement d'amitié et Seibi va rester l'un de ses plus fidèles admirateurs et soutiens. Issa mène à Edo une vie de bohème, mangeant et séjournant souvent chez Seibi. Il participe à de fréquentes rencontres poétiques. Sa renommée de poète commence à grandir. Premier jour du mois, un cerf-volant à deux sous dans le ciel d'Edo aussi. Premier jour du mois, un cerf-volant à deux sous dans le ciel d'Edo aussi. Dans une ruelle, quelqu'un tape sa natte pour en chasser les puces. Nuit de lune. Ah. Dans une ruelle, quelqu'un tape sa natte pour en chasser les puces. Nuit de lune. Ah. À Katsushika, dans la campagne à l'est d'Edo, paysage de rivières et de rizières. À Katsushika, le bac, bondé de jeunes planteuses de riz. À Katsushika, le bac, bondé de jeunes planteuses de riz. En 1801, à 39 ans, Nostalgique de son village natal, Issa retourne à Kashiwabara. Pendant son séjour, son père a une violente attaque de fièvre typhoïde. De sa forme allongée, je chasse les moines, aujourd'hui peut-être pour la dernière fois. De sa forme allongée, je chasse les mouches, aujourd'hui peut-être pour la dernière fois. Nuit après nuit, dévoré par les puces et les moustiques. Nuit après nuit, dévoré par les puces et les moustiques. Voilà, nous laissons Issa au chevet de son père et nous l'y retrouverons la semaine prochaine pour le deuxième opus de l'Extase du Papillon, émission estivale consacrée au grand maître du haïku, au grand maître japonais. Et pour 3 semaines, je vous l'ai dit, vous avez rendez-vous avec Issa Kobayashi, l'un assurément des plus grands haïkistes, les plus touchants, les plus humains et souvent les plus drôles aussi. À la semaine prochaine. Je vous laisse dans les mains du grand musicien japonais Goro Yamaguchi pour ce morceau intitulé Ocho Su.